Amen. Merci Daniel pour cette intro. Je ne partirai pas sur une nouvelle année. Je partirai sur le calendrier. Qu'est-ce que le 6 janvier ? Ça aussi. L'épiphanie, galette des rois. Oui, je suis parti sur l'épiphanie. Parce que demain, il y aura des millions de galettes, ou peut-être même aujourd'hui déjà, hein, qui vont être coupées, et alors on va chercher à essayer d'avoir la couronne en carton. Hein, je devais en prendre une, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Alors, seul celui qui aura la fève, enfin, bon, souvent porcelaine, parce qu'autrefois c'était vraiment une fève, jusque j'ai été voir les. En 1875, date où on a découvert évidemment la faïence, donc on a remplacé la fève, quoi, hein, parce que sinon on la mangeait, quoi. Alors, ce que je me suis dit, qu'est-ce que l'épiphanie ? C'est quoi l'épiphanie pour finir ? Parce que je veux bien. Hein. C'est la visite d'un roi, ok. Jusque-là, visite d'un roi, les trois rois mages qui ont été guidés par une étoile. Gaspard, Melchior, Balthazar. Et dans les recherches, j'ai même vu qu'il y en avait un quelqu'un qui s'appelait Artaban, mais bon, à vérifier aussi, quoi. Ouais, fier comme Artaban, enfin bref. On voit du tout et n'importe quoi. Quand vous cherchez un peu, il faut quand même arriver à essayer de faire un tri et ne pas dire n'importe quoi. Donc, on va voir un petit peu ce qu'est l'épiphanie. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 16. Que je vous propose, qui évidemment est la visite des rois. Comme si c'était marqué que c'était des rois. Matthieu, chapitre 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi d'Hérode. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Jusque-là, la lecture, parce qu'après, on ne parle plus du tout de linge. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant ce texte et te demander vraiment ton esprit pour avoir ton message, comprendre ton message et nous l'appliquer. Seigneur, qu'à toi, en toutes choses, revient toute la gloire. Amen. Dans Matthieu, chapitre 1, si vous lisez le chapitre d'avant, ça nous rapporte la généalogie de Jésus et sa naissance. Mais pas le détail. Il est le point. Pour avoir un compte rendu plus important, il nous faut aller dans le début de l'évangile de Luc, un peu comme si on voulait avoir une autre information, et lire plusieurs journaux. On va lire aussi l'évangile de Luc, qu'on ne fera pas, vous voulez lire chez vous. Juste un petit résumé, Luc relate l'avant-naissance, le transfert de Nazareth vers Bethléem suite à un recensement, la venue au monde de Jésus, l'adoration des bergers, la circoncision, la présentation au temple, les prophéties de Siméon, les louanges d'Anne, et puis retour à Nazareth, avant de trouver Jésus à l'âge de 12 ans. Au temple, aucun mage, aucun voyage en Égypte. Mais pour Matthieu, pas grand-chose non plus, juste que Jésus est né à Bethléem, en Judée. Et j'insiste, en Judée. Pourquoi ce détail ? Parce qu'il existe aussi Bethléem en Belgique. Ah oui. Il existe aussi Bethléem en Galilée, à 10 km de Nazareth. Donc ce qu'aurait pu dire, qui a fait dire à certains commentateurs, « Bon, Marie, c'est pas possible, elle n'a pas fait tout le trajet jusqu'en Judée, passer tout à Samarie, toute la montagne. » Non, il y avait plus ou moins environ 156 km à faire par la route. Ah, je ne vais pas dire à 8 ou 9 mois de grossesse, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc elle a fait quand même les 146 km. L'évangile est clair, c'est bien à Bethléem, en Judée, seulement à 8 km de Jérusalem, que Jésus est né. Comment une femme, effectivement, aurait-elle pu faire 156 km pour accoucher, hein? Aujourd'hui, on nous dit, allô, salut, hélico, viens voir, hop, le roi des Juifs va naître, on y va. Bon. Mais lors du partage de Noël, si vous vous souvenez, je vous ai remis quand même les événements de la nativité dans leur temps. Jésus vient nous rejoindre dans notre temps. Alors, ce n'est pas parce qu'on lit un récit en 5 minutes que tout s'est passé le même jour. Revenons dans le temps de notre récit. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages arrivaient à Jérusalem. Il est clair qu'ici, on parle d'une période, donc la période du règne du roi Hérode. Et puis au verset 7, voilà ce qu'il nous est dit. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Là, on est dans le mot chronos, hein, en grand grec. J'ai fait un petit peu de grec, mais j'ai tout ce qu'il faut pour vérifier. Donc, voilà. Qui a été utilisé, et c'est vraiment la définition du temps qui passe. Donc, ils se sont enquis depuis combien de temps l'étoile était lumineuse. Donc, l'étoile, elle s'illumine quand elle, à la naissance. Et puis, combien de temps ? Verset 16. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. 2 ans. Il fait tuer tous les enfants de 2 ans pour être sûr. Donc on est dans le temps. C'est peut-être pas 12 jours, 15 jours, 1 an peut-être. Hérode, le roi sanguinaire, parce que c'était quelqu'un de terrible, hein, où il a fait tuer les enfants, mais il a fait même tuer plusieurs membres de sa famille pour, comme ça, il se gardait tout. Son beau-frère, sa sœur, là aussi j'ai passé tous les détails, parce qu'il avait une tartine comme ça de commentaires. Et voilà, il a fait exécuter tous les bébés de moins de 2 ans, sans scrupule, quoi. Tout ça sur les indications de temps données par les mages. C'est à cause de ça. Parce que si les mages leur avaient dit Ça fait seulement 6 mois que je vois, on a vu l'étoile. Il n'aurait pas tué jusqu'à 2 ans pour être sûr, quand même, pas exagéré. Et voilà. Bon, qu'est-ce que les mages ont mis comme temps? Ici, on compte 12 jours après Noël. Oui, 6 janvier pour compter, plus ou moins. 12 jours pour fêter avec Jésus l'épiphanie et manger un morceau de galette. Est-ce bien biblique tout ça? Sérieusement. Qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'on trouve l'épiphanie dans la Bible? À votre avis? Qu'est-ce que je suis content, je vais vous apprendre quelque chose. Ben oui! Si! Par 6 fois, dans les épîtres, le mot grec épiphania est cité. Et c'est dans le sens de apparition, éclat, avènement, manifestation, lumière, tout ça. 4 fois en verbe dans le Nouveau Testament, exemple dans Tite 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et ce mot manifesté qui est épiphania. Tite 3:4, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Épiphania. Épiphanie, c'est une manifestation. Ce n'est pas les mages. Si, c'est l'adoration. Dieu est venu dans notre temps, comme on a dit à Noël. C'est ça l'épiphanie. Dieu se manifeste. Et puis, les mages adorent. Mais d'abord, c'est une manifestation. Et ce que j'ai trouvé au départ, l'épiphanie est une fête chrétienne. Dans la religion catholique, elle célèbre depuis le début du IIe siècle le Messie venu et incarné. Retenez bien, le Messie venu et incarné dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage des 3 rois mages. Dans la religion orthodoxe, l'épiphanie ou théophanie célèbre la manifestation au monde de Jésus de Nazareth comme Christ et Fils de Dieu, jusque-là, par son baptême. Note de Wikipédia, évidemment, que j'ai noté. Donc on célébrait davantage la venue au monde du Messie, du Dieu incarné, plutôt que l'adoration des mages. La notion d'épiphanie est bien antérieure à Jésus. Et a servi dans des fêtes de lumière dans l'Antiquité, avec un gâteau que l'on partageait et qui avait une forme ronde comme le soleil. Voilà d'où ça vient. Oh, on se dit. Et la tradition du tirage du roi trouve son origine dans les Saturnales de la Rome antique. Pendant ces fêtes païennes célébrées début janvier, les rôles étaient inversés entre les maîtres et les esclaves qui devenaient les rois d'un jour. Donc pendant un jour, on tirait au sort, et c'est l'esclave qui devenait le roi. On était là bien traiter les esclaves, sinon ils se vengeaient peut-être. Voilà d'où vient tout ça, un peu l'épiphanie. Mais en fait, nous sommes quand même bien loin de notre épiphanie de demain. Hein? Bien que l'idée de la galette des rois, pour moi, une bonne idée quand même. Hein? Mais bon, revenons quand même un peu en hommage. Mage. Nos mages. Notre texte, le texte nous rappelle qu'ils ont seulement vu l'étoile du roi des Juifs en Orient, et le but de leur voyage, c'est de l'adorer. Ils étaient sûrs de leur observation, j'en ai pour preuve qu'ils ont pris des cadeaux nés sans doute, ils sont sûrs qu'ils vont trouver quelqu'un. Alors la tradition a fait d'eux des rois mages, très riches, vu la valeur des cadeaux, mais la réalité est peut-être tout autre. Quand nous pensons aux rois mages, on a d'office l'image de 3 chameaux bien chargés, et ben, moi d'office, je sors comme ça. Alors quand 3 chameaux bien chargés, avec 3 hommes, avec 3 superbes habits, et de couleurs différentes, j'ai appris qu'ils étaient de couleurs différentes parce qu'ils pourraient représenter les descendants de Sem, Cam et Japheth. Donc, les Africains, les Asiatiques, les Européens. Enfin, bref, j'ai lu plein de trucs là-dessus. On peut faire une prédication de jusque 3 heures. Mais bon, mais que nous dit le texte exactement? L'évangile de Matthieu écrit que ces hommes ont vu une étoile qu'ils ont identifiée comme celle du roi des Juifs et qu'ils sont venus à Jérusalem pour savoir où il est né. C'est tout. Donc ils sont en Orient. Tiens, une étoile. Elle ne bouge pas, l'étoile. Elle est là. C'est tout. Rien ne nous dit qu'ils étaient trois. On ne connaît pas leur nom, ni s'ils étaient riches ou s'ils avaient des chameaux. Tout cela est du domaine du plausible. Je dis pas que ce n'est pas vrai. Dans certaines traditions, ils sont 12 ou encore dans grande caravane traversant le désert. Probablement en été. Pourquoi en été? Parce qu'en été, il fait très chaud pendant la journée. Ils se reposent et ils voyagent de nuit. Et comme ça, ils voient l'étoile. C'est plausible, tout ça. Donc on dit, ouais, non, c'est une grande étoile qui éclaire fort et qu'on voit de jour. Peut-être, mais on n'a pas de détails. C'est du plausible. Le terme mage, par contre, qui est en grec magos, ou magos, je ne sais pas comment ça se prononce vraiment, mais ça s'écrit M-A-G-O-S, en grec, est traduit dans d'autres textes par magicien. Exemple, acte 13-6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus. Donc, il peut avoir plusieurs significations, ce mot. Hein. Et le dictionnaire des traductions nous dit, Magos, le nom donné à des Babyloniens ou des Chaldéens, des Mèdes, Perses et autres, hommes sages, enseignants, prêtres, médecins, astrologues, voyants, interprètes de rêves, augures, devins, sorciers, etc. Ça couvre énormément. Donc, c'est peut-être des sorciers qui sont venus. On n'en sait rien. Ouais, peut-être, oui. Et puis, il y a là, évidemment, la définition qui est tirée un peu de la Bible. Ce sont des sages orientaux, astrologues, qui, ayant découvert et le lever d'une étoile remarquable, ont su que le Messie venait de naître et sont venus à Jérusalem pour l'adorer. Mais pourquoi donner tant de détails sur ces hommes? Parce que, quoi qu'il soit, qu'ils soient de superbes rois pleins d'argent ou de vulgaires charlatans sorciers, ils ont découvert une chose extraordinaire. Un astre, une étoile, le signe que le roi des Juifs est né. Pour qu'il soit n'importe qui, peu importe. Et bien pour cela, il fallait quand même qu'ils aient pris connaissance des écrits parlant de lui, qu'ils aient étudié les prophéties le concernant. Il fallait quand même qu'ils sachent comment est-ce qu'il fallait le roi des Juifs. Tiens, une étoile, le roi des Juifs est né. Ils ont dû apprendre ça quelque part. Alors rappelons-nous quand même qu'à un certain moment, un certain Daniel a été à Babylone en captivité en 600 avant Jésus-Christ et qu'il est devenu le chef des sages. Je vais vous lire Daniel 2, 47-48. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Il révèle les secrets puisqu'il a pu découvrir ce secret. Rappelez-vous que Daniel expliquait des rêves au roi. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel devient le chef de ceux qui ont la sagesse. À mon avis, certainement que, connaissant Daniel et sa vie, il ne s'est pas tu sur ses origines et sur ses croyances, et que les descendants ont transmis le savoir de la venue d'un futur roi des Juifs, de génération en génération. Alors, étant astronomes réputés, ils ont scruté le ciel pendant des années. Ils ont certainement eu beaucoup de patience, de persévérance et de conviction. Il faut être convaincu pour se mettre en route et se mettre en route pour rencontrer le roi des Juifs pour simplement l'adorer. Il fallait qu'ils connaissent la Bible avant. Alors nous comprendrons dès lors que Hérode est un peu frustré lui-même, nommé roi des Juifs par le Sénat romain. Je vous passe toute l'histoire, pourquoi il est arrivé là, parce que c'est un descendant juif, hein. Hérode n'est pas un romain, c'est un descendant juif. Nous comprenons dès lors que détruire cet ennemi, fût-il un bébé, il fallait absolument l'éliminer, sinon il allait prendre sa place. Notre texte, Matthieu 2, 4, 6, et il assembla tous les principaux sacrificateurs pour vérifier ce que les mages avaient dit, si c'est vrai. Matthieu 2, 4, 6, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit comme écrit le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Ceux qui connaissent la Torah, les grands théologiens, les prophètes, ils connaissent tout, les écrits, ils connaissent tout, sont consultés par le roi. Donne la prophétie exacte de la naissance de ce chef qui dirigera Israël. Ils savent que c'est à Bethléem qui est désigné pour cet événement, mais ils n'y croient même pas eux-mêmes. Ils n'y vont même pas. Leur connaissance ne leur donne pas la sagesse. Ils savent pourtant que ces mages, entre autres les Mésopotamiens, sont d'excellents astrologues et que s'ils ont fait pareil voyage, c'est qu'ils ont découvert quelque chose d'exceptionnel. Mais rien n'y fait. Pas un seul n'ira vérifier la venue du Messie. Personne. C'est fou ça. Aucun acte de foi ne vient de ceux qui connaissent parfaitement les prophéties annoncées. J'ai rajouté, on a beau connaître la Bible, parfois, sans réaction. On ne sait pas. Pas même un seul érudit de l'Ancien Testament. Personne du peuple élu ne se rendra à Bethléem pour accueillir son roi. Personne. Seuls des bergers, sans les moindres sous, avertis et accepteront de se déplacer pour l'adorer. Eux, les mages, seront guidés par l'étoile qui s'arrêtera au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Le texte nous dit que l'étoile s'arrêta au-dessus de la maison. 8 kilomètres seulement, hein, entre Jérusalem. Donc ils arrivent à Jérusalem, ils ont vu l'étoile, ils arrivent à Jérusalem, et c'est de Jérusalem jusqu'à Bethléem que l'étoile va s'arrêter. Tiens, au-dessus de la maison, c'est marqué dans le texte. C'est pas une crèche en bois. Une petite baraque au fond du jardin. Non, à l'époque, la crèche désignait une sorte de bac taillé dans la pierre à hauteur de la bouche des animaux pour qu'ils puissent manger le foin et qu'on y place. Et à cet endroit, c'était au rez-de-chaussée, sous la pièce principale de la maison, ce qui permettait aux propriétaires de surveiller les vaches, les bœufs, les ânes et tous les autres animaux et qui donnait une certaine chaleur en sorte. Une sorte de chauffage, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai connu en Italie une maison qui avait encore ça. Tout le bétail était en dessous et au-dessus, c'était l'appartement. Ça, un petit résumé de l'architecture d'une maison juive. Donc, au rez-de-chaussée, on avait ce local à vaches où se trouvaient les mangeoires, appelées crèches. Cette pièce pouvait aussi accueillir parfois des voyageurs de passage. Quoi. Au premier étage, la pièce de vie de la famille, qui était utilisé pour manger, dormir, remarquer, regarder la télévision. Hein, c'est un peu pour dire, vous écoutez tous ? Mais non, pour toute autre activité du ménage. Ou encore, et encore au-dessus, la fameuse chambre haute. La chambre haute qui était réservée aux visiteurs qui, probablement au moment du recensement, étaient tout occupés, vu qu'il y avait énormément de monde qui était venu. 33 ans plus tard, l'une d'elles servira à préparer la Sainte Cène et à l'effusion du Saint-Esprit. Jésus naîtra donc dans la plus basse des pièces d'une maison de la plus petite ville du pays et sera adoré par de simples bergers, concitoyens et quelques étrangers, voyants, sorciers peut-être, magiciens. Quel accueil pour le roi des Juifs! Personne de son pays. personne, tous ceux qui connaissaient la prophétie ne sont pas là. Personne. Donc Dieu suscite un recensement mondial pour que s'accomplissent les prophéties arrivées à leur terme. Et pour que les étrangers viennent adorer Jésus, son Fils. Mais son but final est quand même que le monde entier l'adore. C'est vraiment là son but. Il y a par contre, dans notre récit, deux sortes de personnes qui ne veulent pas l'adorer. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Premièrement, les indifférents. Ce qu'on a déjà noté, bon, moi je ne viens pas. Ce groupe, c'est représenté par les principaux sacrificateurs, les scribes, dont on a déjà parlé. Comme ils savent tout, ce sont des génies, ils croient tout connaître, et qu'ils ont répondu à la question de savoir d'où venait le roi des Juifs, le Messie, ils ont accompli leur devoir, hein. Nous on sait, hein. Mais le reste, rien. Leur silence et leur inactivité face à l'ampleur de ce qui est en train de se produire est déconcertant quand même. Aujourd'hui, nous vivons de multiples exemples de ce genre de réaction. Parfois, souvent, le silence de l'Église est tout aussi déroutant devant certaines situations de notre temps. Deuxièmement, il y a ceux qui ne veulent pas adorer Jésus et qui se sentent menacés. C'est comme Hérode. Il a peur. Il a peur à un tel point qu'il ment et en disant qu'il veut aussi l'adorer. Dites-le-moi pour ça, je vais l'adorer. Et il va jusqu'au meurtre pour se débarrasser de Jésus. Que ne fait-on pas parfois pour éliminer toute trace du christianisme dans notre pays, et pas que dans le nôtre. Hérode transmettra sa peur à tout Jérusalem. La preuve, le bruit que le roi des Juifs est né, s'est répandu dans toute la ville, et pourtant, comme je l'ai dit, personne n'ira vérifier si c'est vrai. Pas même un responsable religieux. On peut dire, tiens, j'ai quand même un doute, je vais aller voir. Même pas. Alors qu'il y a quelques années en France, je reviens un peu sur mon thème d'aujourd'hui, il y a quelques années en France, on voulait interdire les crèches dans les lieux publics. Je ne sais pas si vous en souvenez, je crois qu'il y a 4-5 ans d'ici. Par contre, il n'a jamais été question d'éliminer l'épiphanie. Bizarre, hein? En revenant sur ce mot, j'aimerais vous laisser le verset que l'on trouve dans les Actes, où il est sous la forme d'un adjectif. Le seul adjectif de la Bible qui est épiphane, en grec qui veut dire glorieux, éclatant. Et ce verset m'a étonné. Acte 2, 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour grand et glorieux. Glorieux est traduit, c'est épiphanie. Le jour du Seigneur sera une épiphanie. C'est fou. Le retour de Jésus sera un jour de gloire, un jour d'épiphanie, un jour lumineux. Vous vous souvenez de la définition de l'épiphanie ? Je l'ai dit au départ. L'épiphanie d'une fête chrétienne célébrée depuis le IIe siècle, le Messie venu et incarné dans le monde, et puis qui reçoit la visite des rois mages. C'est d'abord célébrer la venue du Messie. L'épiphanie, c'est d'abord ça, le Dieu incarné. Alors en attendant ce jour grand et glorieux, je me dis parfois, je m'attriste du manque parfois de connaissances, de l'indifférence parfois, à vérifier nos choses qu'on fait. Alors pour terminer, les mages étaient-ils des sorciers, des astrologues? Il est clair que quelqu'un m'a posé la question. La Bible interdit et condamne l'astrologie et ceux qui pratiquent ces formes d'occultisme et d'idolâtrie, et ils devaient être ôtés du peuple. Comment Dieu a-t-il permis que des magos viennent adorer son Fils? Jésus est venu sur la terre pourquoi? Pour tous. Il est pas venu pour les bien portants. Ouais, le bien portant, enfin, ceux qui se croyaient bien portants sont même pas venus. Il est venu pour les malades, il est venu pour sauver l'humanité entière. Alors l'attitude des mages, pour moi, me dénote pas une forme de satanisme, mais une réponse à une invitation divine. De plus, ils seront avertis en songe de ne pas retourner par le même chemin, justement pour éviter de se retrouver devant Hérode, le mal personnifié. Alors que tirer comme conclusion pour notre vie, si les mages peuvent être désignés comme les premiers hommes non-juifs à être touchés par la grâce de Dieu, c'est parce qu'ils ont cherché, ils ont étudié, ils ont scruté, ils ont cru au signe que Dieu a envoyé, ils ont trouvé Jésus et ils l'ont adoré. Ils ne nous est pas retournés, ils ne sont pas retournés non plus par le même chemin qu'ils sont venus, parce que dès que Jésus est là, que Jésus bouleverse, qu'on fait une rencontre avec lui, on ne peut pas rester le même. On ne peut pas retourner par le même chemin. On ne peut pas retourner par le même chemin du mal. Alors ce que Dieu veut nous enseigner, c'est que cette étoile, que j'appellerai notre étoile, c'est elle qui peut nous guider. Qui peut nous guider vers une nouvelle épiphanie qui se prépare dans le ciel. La venue de notre Seigneur en gloire. Puissions-nous ne pas être hostiles ou indifférents devant certains événements mondiaux qui annoncent peut-être un nouveau jour de la venue du roi des Juifs sur terre. Alors peut-être demain ou aujourd'hui, en dégustant notre galette et en espérant peut-être porter la couronne en carton, rappelons-nous d'abord que l'épiphanie est la fête de la venue de Jésus sur terre. Et que sa couronne à lui n'est pas en carton. Elle était une couronne d'épines. Pour que nous puissions, nous, un jour, comme le dira Paul, recevoir la couronne de justice. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, merci parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu es descendu dans notre temps. Merci parce que, peu importe qui nous sommes, tu appelles. Tu montres des signes à nous de répondre, à nous de scruter, à nous d'étudier, à nous d'approfondir, à nous de faire grandir notre foi en toi. Mais en toute chose, Seigneur, qu'à toi revienne toute cette gloire qui t'est due. Nous voulons t'attendre, justement, avec cet espoir d'une nouvelle épiphanie, lumineuse, glorieuse, le retour de ton Fils. Amen.